Nous sommes mercredi 4 de l'Arc 2019 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Mecton.
Salut!
Bonsoir Zergy.
Salut!
Mais bonsoir Antix.
Salut!
On se retrouve pour cette émission exceptionnelle du Dojo Bar, qui exceptionnellement, comme une fois n'est pas coutume dans l'exception, va se dérouler 2 semaines de suite parce que le tunnel de septembre a commencé.
C'est incroyable!
Faut qu'on rattrape l'été. Fou. Donc on va déjà essayer de rattraper l'été. On a quand même quelques petites choses à dire. Alors c'est pas forcément, ça va pas forcément être une émission hyper étoffée. Mais il y a quand même des jeux à côté desquels on voulait pas passer. Et des petites nouvelles à côté desquelles on voulait pas passer. Donc voilà, on fait vraiment une émission de rentrée à la cool. Et la semaine prochaine, on va attaquer Fire Emblem Three Houses. Enfin, Fire Emblem 4 saisons.
Ouais.
Voilà, on fera une petite partie sans divulgachi et une partie avec divulgachi. On va parler d'un peu tout, le système de jeu, le scénario, les nouveautés, etc., etc., etc. On est quand même sur un jeu exceptionnel.
Ouais, hein, spoiler, c'est du bon.
Voilà, je pense que sur le dojo, on s'est tous buté la gueule dessus. C'est-à-dire qu'à partir du 26 juillet, les jeux de l'été, ils étaient finis.
C'est ça, ouais, exactement.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. Voilà, mais en attendant, on a quand même joué à des trucs fin juin et début juillet. Et un petit peu au mois d'août en réalité aussi. Donc on va en profiter pour le rattraper. Mais, alors...
Santé.
Voilà, merci beaucoup.
Ah, pareil.
Fait du bien. Et on va commencer tout de suite avec la rubrique Fric égale pognon, sponsorisée par Zergy, qui nous a dégoté 2-3 petites choses, mais alors pas piqué des hannetons.
C'est les Zergy, trucs qu'on passe en douce, voilà, pendant l'été, là.
C'est un peu ça. C'est un peu comme ça à l'Assemblée nationale quand t'as une loi genre oui, alors on voudrait interdire les gens. Tu fais passer ça pendant l'été. Voilà. Ou les trucs un peu racistes, tu les fais passer pendant l'été, ça passe bien. Voilà. Donc Zergy qui va commencer par Activision.
Voilà, on va commencer par l'apéro. Donc, au courant juin, il y a eu le remake de Crash Team Racing qui est sorti, qui a eu son petit succès, même si ça reste un jeu de merde.
Il m'a mis les nerfs, moi, oui.
Et si vous regardez la boîte de Crash Team Racing, il n'est mis nulle part qu'il y a des microtransactions.
C'est vrai.
C'est vrai.
Voilà. Et Activision a eu la bonne idée d'activer les microtransactions après coup.
Putain.
Voilà, comme ça.
Non, attends, j'ai quand même une vraie question. Est-ce
ni
que
vu ni connu, je l'encule.
Ah, mais monsieur Activision, spécialiste du coup fourré, c'est beau, hein.
Ah non, mais là ils sont très très bons. Par contre, j'ai quand même une question. Est-ce que du coup le PEGI a été mis à jour sur l'eShop? Parce que sur les boîtes, on a vu que c'était mort.
Oh, t'as un journalisme total.
J'ai pas vérifié.
Attention, Mecton est parti en mode journalisme total pendant ce temps-là.
Bundy, retourne ta boîte, voir si elle a été mise à jour.
Il y a un post-it qui est apparu pendant la nuit.
Ce serait énorme, c'est des petits...
Attendez, je suis sous Minitel.
Des petits Pikmin qui viennent recoller un post-it.
Les fameux ninjas d'Activision, c'est là où en fait sont venus les Skylanders reconvertis en bots d'Activision pour envahir les maisons et mettre à jour la boîte de Crash Team Racing.
Si, oui, c'est possible. Alors si ça vous tente, moi je suis assez chaud pour aller directement voir le sel, pour pratique illégale de la médecine ou un truc comme ça, enfin on s'en fout, on trouve un truc. Pour aller attaquer Activision pour ça, pour qu'ils mettent à jour les boîtes.
Pratique trompeuse ou...
Pratique trompeuse, ouais. Pratique commerciale trompeuse. Je pense que, franchement, il y aurait un truc à tenter.
Alors, sachez-le, la page Smash Bros. Est en train de spoiler un truc parce qu'on a un petit copyright qui a été rajouté.
Copyright oui, SNK.
Je pense qu'ils en parleront ce soir. La page Crash Team Racing, bah, elle est d'époque. Il n'y a eu aucune mise à jour, il n'y a
donc,
rien qui parle de...
C'est de la puputerie.
D'achat in-game.
C'est donc bien de la puputerie.
Il y a éventuellement les packs téléchargeables, mais qui étaient dispo à la sortie. Ils ne parlent pas des petites microtransactions qui ont été rajoutées. Ah si, propose des achats en jeu. Oh mon dieu, c'est écrit sur la tranche.
Sur la tranche de quoi?
Non, c'est écrit dans la petite colonne à droite.
Sur la tranche de la page ou
ouais,
sur le côté
de mon écran, ok.
D'accord. Donc ils ont quand même mis à jour l'eShop, mais du coup pas les versions boîte. C'est un peu limite, quoi.
Attends, faut que... Merde, j'ai sorti les poubelles. Non, bah je pourrais pas la retrouver.
Faut bien vivre, hein.
Ouais.
Bah, bon. Zergy, on a un deuxième gagnant.
Voilà. Oui, voilà.
Take Two.
Ah, il est exceptionnel celui-là.
Alors, les loot box, c'est quand même le topic, enfin le sujet un petit peu chaud là depuis 2 ans. Les éditeurs se disent, crient à tue-tête que non, ce n'est pas du tout du jeu de hasard, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir.
C'est de la surprise.
Voilà, des mécanismes surprises. Et Take Two nous a fait 2 coups de pute, plutôt pas mal. Dans GTA V, ils ont ajouté, je ne sais pas quand, une zone avec des casinos, où tu peux jouer à des jeux de casinos en balançant de l'argent réel dedans. Pour gagner du rien du tout, hein. Pour gagner des trucs virtuels.
C'est génial.
Et donc, il y a 2K Games, qui est aussi un gros champion là-dedans, qui a fait qui dans la version 2020 de NBA 2K, a fait en fait ils ont fait un système comme FIFA Dream Team machin
oui,
truc là
le FUT FIFA Ultimate Team
ouais. Ouais voilà c'est ça
le truc où tu peux perdre
ils ont fait un équivalent qui s'appelle My Team et pour gagner des boosters il faut jouer à la roulette ou à la machine à sous.
Putain.
Donc c'est du jeu de hasard. Alors après le truc pour le NBA pour NBA 2K je sais pas si on peut balancer du vrai argent dedans.
Bah je suppose que oui.
Ça m'étonnerait pas.
Bah ce serait étonnant. Enfin, moi personnellement, là maintenant, je serais plutôt étonné qu'on puisse pas mettre du vrai pognon. Plutôt que le contraire. Entre nous. Voilà, on nous dit sur le chat, il y a Nazur qui nous dit le pire c'est qu'il y a des ânes qui payent ces merdes. Bah le problème c'est que c'est.
Il y en a qui se ruinent avec ça.
Il y en a qui se ruinent, mais le problème c'est que c'est réellement. Enfin, il y a des gens qui ont des problèmes d'addiction avec le jeu, et en fait, c'est une addiction qui est beaucoup plus courante que ce qu'on imagine. Et en fait, les casinos avaient cet avantage, les vrais casinos réels, physiques, du vrai monde, hein,
cadre. Dire,
avaient cet avantage, c'est qu'effectivement, c'est relativement cadré. Alors, tu peux quand même y perdre ta chemise, hein,
mais au bout d'un moment, tu peux te faire interdire.
Tu peux te faire interdire de casino, et surtout, tu es obligé de te déplacer physiquement dans un casino pour assouvir ton addiction. Là, comme c'est dans ton salon, il y a des gens qui n'arrivent pas à se contrôler. Hein.
Et c'est un truc sérieux. C'est comme s'il y avait de la coke à la machine à café, quoi.
J'imagine qu'il faut absolument que je bricole sur la machine à café du boulot, il y a une touche vide, faut que j'arrive à marquer cocaïne dessus.
Ah mais il y a toujours une touche vide alors, ok.
Non mais franchement faut que j'arrive à le faire, je vais proposer ça à des collègues, je pense qu'on va rigoler. Bref, non mais merci pour l'idée blague de demain.
C'est cadeau. Voilà.
Et merci Zergy pour cette magnifique rubrique fric égale pognon.
Du coup, faudra pas attendre à ce que les éditeurs se régulent eux-mêmes, hein, parce que là on touche à du... pognon bien gras. Je veux dire, qu'ils se régulent eux-mêmes pour dire « Oh, attention, tel jeu, il est violent, ou il est ceci », et mettre des âges dessus. Ça, ils peuvent le faire, parce qu'ils savent très bien que ça va pas gêner leur vente, et ça va pas gêner leur rentrée d'argent. Qu'ils se régulent eux-mêmes sur les microtransactions, les DLC, et les lootbox, ils vont pas le faire. On le sait bien.
Clairement pas. Et à un moment, je pense qu'il faudra...
C'est comme si tu demandais à un drogué de réguler lui-même sa consommation de drogue.
C'est exactement ça. Mais à un moment, il faudra peut-être discuter. Il y avait eu un très bon article de Kotaku cet été, d'ailleurs, me semble-t-il. Fait par je ne sais plus qui, je suis désolé, j'ai perdu son nom. Qui disait, mais l'industrie du développement de jeux ne peut plus aller dans cette direction-là. Il y a un moment où il va falloir que les budgets se réduisent pour les projets, c'est-à-dire que les projets pharaoniques qui coûtent des millions et qui donc sont rentabilisés à coup de microtransactions, parce que sinon on s'en sort pas juste avec les ventes de jeux. Il va falloir que ça s'arrête à un moment, il va falloir que le truc se rééquilibre autrement, sans compter le gaspillage écologique monstrueux que ça représente dans certains cas, enfin bref. Il y a des vraies questions à se poser. Un jour, il faudra qu'on attaque ce sujet-là. Alors le problème, c'est que là, on est dans le tunnel de septembre.
De l'écologie, putain.
L'écologie,
pas que de l'écologie. Le mec disait, il y a un gaspillage de ressources formidable là-dedans, et tout ça parce que développer un AAA aujourd'hui, ça coûte 10, 15, 20, 30, 100 fois plus cher qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années.
Il y a une très bonne vidéo de...
Je cherche son nom, oui.
Game Spectrum.
Merci. Voilà.
Qui en parle, un reportage assez copieux de 30-40 minutes de
mémoire.
Une bonne
quarantaine de minutes, ouais.
Et alors, ça parle beaucoup d'écologie de manière générale et il fait souvent des allers-retours entre l'écologie globale et appliqué au modèle du jeu vidéo, et c'est très intéressant ce qu'il raconte, notamment sur tout ce qui est la course à la puissance.
mais course à la puissance il y a une espèce de cercle vicieux très malsain entre la course à la puissance, c'est-à-dire que les gens qui veulent toujours des trucs plus réalistes, plus beaux, plus ci, plus mi, avec plus d'effets, les éditeurs qui sont obligés de dépenser de plus en plus de pognon pour faire ces trucs-là, et le truc s'emballe complètement, enfin voilà, on n'arrivera pas à s'en sortir comme ça. Donc je pense que ça mériterait un sujet à lui tout seul. Je ferme là la parenthèse, sinon on va y passer l'émission, c'est pas l'objectif. Voilà, je ferme. Je remercie une nouvelle fois Zergy pour cette magnifique rubrique Fric égale pognon, qui... je dois t'avouer que quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ok, cool, on va y aller. Voilà. Alors, ces jeux qu'on a rattrapés cet été, donc je vais profiter, donc je vais laisser la main à Mecton pour commencer avec le Final Splatfest.
Oh,
le Final Splatfest. Merde, on vient de se faire niquer sur Twitch.
Oui, alors si vous êtes joueur de Splatoon 2, vous n'étiez pas sans savoir que régulièrement, je crois que c'était au minimum une fois par mois, peut-être un peu plus de temps en temps.
Une fois par mois, me semble-t-il.
Ouais, tu avais donc un festival qui était organisé. Et donc là, eh bien, c'était le dernier cet été, fin juin de mémoire, je sais plus. Enfin bon, ce qui était marquant, enfin ce qui personnellement m'a marqué, c'est le battage qui a été fait autour de ce festival final. Donc ils en parlaient, enfin toutes les applis Nintendo ont eu leur petit événement sur le thème. Alors, au minimum Animal Crossing, ça c'est sûr. Oui, oui, j'y joue, je me vends. Il y a eu des goodies, donc t-shirts, posters qui étaient commandables sur le store. Des vidéos en mode bande-annonce, genre voilà, c'est la lutte finale, tout ça, tout ça.
Et... c'est la lutte, excusez-moi.
Ouais. Et le truc rigolo, c'est que ce dernier festival, ça avait été le cas pour le premier aussi. En fait, le résultat du festival, l'équipe gagnante, du coup, a une influence sur le scénario de l'épisode d'après.
What?
Oui. À la fin, le dernier festival de Splatoon 1, c'était le camp Ayo ou le camp Oli. Et le vainqueur a fait que c'était pas le même personnage qui disparaissait dans l'intro du 2.
Oui, c'était, je crois que c'était Oli qui était présente et c'était Ayo qui disparaissait dans le 2.
Je sais plus, mais voilà, a priori, la décision de savoir qui faire disparaître, elle est sortie des résultats du dernier festival du premier Splatoon. Et là, le thème de ce Final Fest Splatoon 2, c'était chaos contre ordre. Et c'est le chaos qui a gagné.
Ouais.
Donc ça nous présage des choses amusantes pour Splatoon 3.
Ça me rappelle la fin de Fire Emblem sur Wii. Aucun rapport.
Voilà, tout ça pour dire, c'est des petits événements que j'aimais bien, personnellement. Ça te permettait de lancer le jeu, d'avoir une bonne ambiance, parce que le square, le hub central, il était au déco, les gens postaient leurs dessins, ces dessins apparaissaient dans le jeu, c'était vraiment sympa. Au passage, j'en profite, il y a la même chose sur ARMS. Des petits...
Oui, les Arms Party, Crash Party, si je me rappelle.
Ouais, ouais, ouais. Donc pareil, le dernier est passé et c'est terminé. Ça a fait un peu moins de bruit parce que la licence n'est pas aussi marquante encore. J'espère qu'on aura un 2 et qui fera un peu plus de bruit.
J'espère aussi, parce que c'était vraiment sympa. Enfin, j'ai peu retouché depuis, je sais que le jeu a un petit peu évolué. Mais c'est vrai que c'était très bien. Bon, Splatoon 2 n'est pas mort pour autant. Hein.
Ah non, absolument pas. Du coup, on a eu
le jeu est toujours là, enfin, il n'y a pas de souci. C'est simplement qu'il n'y a plus l'animation... Cette animation-là n'existe plus,
sauf si on est en mode partie privée, où la dernière mise à jour permet justement d'accéder aux cartes qui étaient exclusives aux différents festivals.
Ah, ça c'est sympa.
Ouais, non mais...
Ça c'est très sympa. Merci pour ce petit mot sur le Final Splatfest.
Alors, Il vous en prie.
Nous vous remercions, monsieur. Donc ça veut effectivement pas dire que Splatoon c'est fini, ça veut simplement dire que effectivement Nintendo a... arrête d'avoir des gens en permanence à soutenir ce truc-là.
Sachant qu'à la base, il aurait dû y avoir que un an de soutien à une mise à jour, et que pour le coup, le Splatfest, ça a duré une année de plus. Alors, les mises à jour se sont arrêtées avant, mais les Splatfest auraient dû continuer, ah, mais oui, ça fait quand même 2 ans.
Elles se sont arrêtées, oui et non, je pense quand même qu'il y avait petite team qui devait bosser dessus, parce qu'à chaque festival, tu avais une petite notif dans,
oui, oui, non,
bah, dans les notifs de ta Switch. Si tu lançais le jeu à partir de cette notif, tu avais un petit item qui était débloqué.
Okay. Bah, de toute façon, oui, mais c'est du boulot mineur, parce qu'au final...
Oui, c'est des petits assets, mais voilà.
Je crois que c'est genre un t-shirt spécifique ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est un t-shirt,
un chapeau. Voilà.
Mais bon, ça va, c'est sympa. Je vais enchaîner d'ailleurs. Alors, moi cet été, je me suis fait un gros kiff, mais un très 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 gros kiff. J'ai joué à City Skylines sur Switch.
Ça rame.
Pas tant que ça. Enfin, de toute façon, ça rame sur mon PC aussi, hein, si c'est ça la question. Voilà, City Skyline, en fait, c'est sorti il y a un petit moment sur Switch, c'était sorti juste en dématérialisé, et moi je m'étais dit, bon, tant que c'est pas en physique, ma vie sociale n'est pas encore ruinée. Il est sorti en physique, donc ma vie sociale a été ruinée. C'est-à-dire que j'ai dû enchaîner genre 20 heures sur le jeu en 2 jours, parce que moi, les City Builders, c'est un de mes gros gros kinks. Je suis un énorme fan de SimCity, et c'est vrai que depuis SimCity 4, eh ben, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et du coup, bah, City Skylines, c'est quand même le City Builder de référence depuis 5-6 ans maintenant. Peut-être même un petit peu plus, je crois qu'il est sorti en 2012 ou 2013. Sur PC, et donc là, ça inclut un certain nombre d'extensions. Alors, c'est pas les extensions les plus folles, hein, c'est juste des décors. Et en fait, ça représente aussi des niveaux de difficulté. C'est-à-dire que dans City Skylines, en fait, il n'y a pas d'ajustement de la difficulté. La difficulté, c'est la carte sur laquelle on est. C'est-à-dire que la carte de base, il y a... un fleuve, c'est pas trop montagneux, c'est une espèce de plaine en fait avec des forêts, suffisamment de ressources, une rivière pour l'eau potable et tout ça, donc c'est pas très compliqué. Et puis en fait, toutes les autres cartes représentent un niveau de difficulté supérieur. Il y a une falaise sur la deuxième carte qui fait que c'est plus compliqué d'avoir de l'eau, que les constructions sont plus difficiles parce que c'est montagneux, les îles c'est encore plus compliqué parce que pour circuler d'île en île c'est vite le bordel, et ainsi de suite.
Attends, parce que ça marche que par niveau ou t'as quand même un bac à sable
Alors, c'est un bac à sable à chaque fois, simplement, la carte de départ que tu prends va représenter le niveau de difficulté.
D'accord, ok. Voilà.
Donc typiquement, t'as genre trois thèmes qui est genre Europe, donc où c'est zone tempérée en fait, t'as zone désertique et t'as zone...
Allemagne nazie, ouais.
Voilà, super, et t'as zone glaciaire. Et en fait, par exemple, sur la zone glaciaire, tu sais, pareil, t'as ces trois trucs-là, c'est-à-dire que t'as la plaine avec une rivière, le bord de mer, les falaises qui sont plus compliquées, les îles qui sont encore plus compliquées, sauf que bah, quand t'es dans le froid, les gens doivent se chauffer plus, et du coup, ils dépensent plus d'énergie, et
c'est
plus compliqué. Voilà. Donc en fait, toute l'astuce du jeu, c'est ça, c'est que pour apprendre le jeu, t'as intérêt à prendre la première carte de base, qui est vraiment Europe, la rivière, le truc tout con, et t'es sûr que tu vas t'en sortir. Si t'as besoin, si t'as envie d'un peu de challenge, ou que tu commences à bien comprendre les mécaniques du jeu, tu peux aller te dire, bah, je fais la même carte, mais version Pôle Nord, en gros, et là, mon gars, tu vas commencer à en chier. Voilà, donc je trouve ça très rigolo, déjà, cette façon de faire, ça reste un city builder, c'est-à-dire qu'effectivement, faut se débrouiller pour que les gens soient heureux, qu'ils aient accès à des transports en commun. La partie circulation dans City Skyline est absolument redoutable. Alors, elle n'est pas réaliste pour deux ronds, c'est même le grand n'importe quoi.
Non,
il faut
c'est un jeu avec des règles, on est d'accord.
C'est un jeu avec des règles. Néanmoins, quand tu vois le bordel que c'est SimCity 4, même avec l'extension Rush Hour, qui était pourtant pas si mal foutu que ça, c'était vraiment le bordel, parce qu'en fait, c'est pas un vrai jeu en 3D. SimCity 4, c'est un jeu en 2D avec une grille et tout ça, donc tu pouvais pas faire n'importe quoi. Là, tu peux vraiment faire n'importe quoi, c'est-à-dire tu peux mettre des routes à sens unique, tu peux faire des courbes, tu peux faire des routes avec qui ressemblent à des serpentins. Là, tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi, c'est assez fou la quantité de possibilités qu'il y a.
Tant que j'y pense, niveau input, ça se joue bien à la manette ?
Ça se joue plutôt bien à la manette. Il y a juste de temps en temps, si tu veux tracer une route très très précise, où tu sens que le truc il est un peu foireux.
D'accord.
Genre, si tu veux faire des ronds-points, sur la version PC, en fait, il n'y a pas de ronds-points, tout fait. Tu les fais vraiment toi-même, c'est-à-dire qu'en fait, tu construis des routes et puis tu les mets à sens unique et tu fais les croisements et tout ça, donc tu te débrouilles. Là, sur Switch, et je crois que c'est pareil sur PS4, tu as des modèles, en fait, tout faits, c'est-à-dire que tu as des ronds-points tout faits, par exemple, pour éviter de galérer, parce que c'est vraiment des patterns qui sont compliqués à faire quand tu es à la manette. Voilà. Mais pour le reste, ça se contrôle plutôt bien. Bon, voilà, donc en plus de la circulation, il faut gérer les transports en commun. Il y a plein de pièges à éviter, c'est-à-dire tu gères, en plus de la pollution de l'air et de l'eau, il faut gérer la pollution sonore,
Ah, excellent.
Voilà. Typiquement, voilà, tu mets une éolienne. Alors déjà, en fonction de l'endroit où tu la mets sur la carte, elle va pas générer la même quantité d'énergie. Quand t'es au bord de la mer, elle va générer plus d'énergie que quand t'es dans les terres. C'est logique, mais fallait y penser. Elle produit pas de pollution ni de l'air ni de l'eau, mais elle produit une pollution sonore. Donc si tu mets des habitations à côté, les mecs sont pas contents. Et t'as plein de trucs comme ça, super intéressants à gérer. La gestion des ordures, par exemple, est assez poussée.
Ah putain, ça va loin, ouais.
Ouais, non, là, tu ne peux pas... comme dans SimCity, en fait, SimCity, tu mets un incinérateur, et en fait, t'es peinard. L'incinérateur va pouvoir incinérer les déchets, point. Là, tu peux pas, t'es obligé de mettre des décharges qui seront vidées par l'incinérateur si elles sont trop pleines. Okay. Donc t'es obligé, en fait, de jouer un petit peu là-dessus, sachant que l'incinérateur produit de l'électricité, mais très peu. Par contre, il produit énormément de pollution. Voilà, pareil, tu peux faire des quartiers, c'est-à-dire zoner, en fait, tu prends ton curseur, tu prends une zone complète, tu dis, bah voilà, ça c'est un quartier bien précis, et après tu peux lui donner une spécialité, tu peux dire, bah ça c'est un quartier touristique, ça c'est un quartier à pute, ça c'est... c'est pas vrai. C'est un quartier, je sais pas, industrie pétrolière, industrie minière, industrie forestière, et ainsi de suite. Mais voilà, tu peux faire vraiment plein de trucs comme ça, c'est super intéressant, on peut y passer des heures, juste apprendre le jeu. Alors le jeu est assez vache là-dessus, parce qu'il te lâche avec quasiment aucun tutoriel.
Ah, merde.
C'est-à-dire qu'il te montre comment fonctionne manipuler en fait les différents éléments à l'écran. Il t'explique 2-3 bricoles, mais ensuite il te lâche et c'est vraiment à toi de te débrouiller.
Ça, tu vois, c'est ce truc que j'ai bien aimé dans Civilization, où là, pour le coup, le tuto était nécessaire et je l'ai trouvé très bien foutu.
Bah là, le tuto, il serait bien, mais finalement, le fait d'apprendre en expérimentant, ça fait vraiment partie du jeu.
Ok. C'est un choix, mais ok.
C'est un choix. C'est la première fois qu'on te dit, ah bah maintenant le cimetière est accessible. Tu te dis, cimetière, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et puis en fait, tu te rends compte que bah ouais, bah tes citoyens finissent par mourir, et si tu vas pas les chercher pour les enterrer dans un cimetière, bah en fait, ils finissent.
Ils polluent.
Ils font des maladies. Parce qu'il y a leurs cadavres qui se putréfient dans la maison, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais t'as plein de trucs super bien foutus comme ça, c'est vraiment un très gros kiff, sachant que on peut y jouer en mode complètement détente. C'est-à-dire qu'on peut y jouer avec pognon illimité et tous les paliers débloqués dès le départ.
C'est le mode Balkany.
C'est très bon.
C'est un peu ça. C'est un peu ça quand même.
Ah, c'est le mode Bolloré aussi.
Ouais.
Vous êtes vaches. Mais vous avez raison. C'est le mode mairie de Paris. Voilà, mais c'est vraiment le mode. Moi, mes enfants, en fait, ils voulaient essayer. C'est le mode qu'ils ont fait. Ils ont mis un pognon illimité, débloqué tous les paliers. Et puis, comme ça, bah, voilà, le gamin, il a construit genre 15 centrales solaires sans se poser de questions. Il a acheté la moitié de la carte. Il a fait des trucs complètement délirants. Et c'est drôle aussi parce que c'est expérimental et on s'amuse. Et on peut faire plein de trucs, enfin moi j'ai essayé plein de trucs à la con, j'ai fait une espèce d'énorme périphérique autour d'un quartier d'affaires, et avec des petites routes secondaires, avec des tramways, avec des bus, avec des métros, avec des trains, avec des machins, j'ai vu plein de trucs qui marchaient pas, enfin voilà, c'est vraiment très 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 cool. J'ai fait une piste cyclable aérienne aussi, qui passe très loin au-dessus de l'autoroute, ça m'a fait marrer. Bref, tu peux faire des trucs complètement pétés. Et enfin moi j'adore ce genre de jeu, c'est vraiment un de mes gros kiffs, et je me suis bien bien éclaté, et la ville que j'ai faite, je suis pas encore au dernier niveau possible, je crois que c'est la mégalopone, c'est genre 500 000 ou 900 000 habitants, je me souviens plus, je dois en être à 50 000 habitants, mais comme j'ai un budget qui est excédentaire, largement excédentaire depuis 10-12 000 habitants maintenant, en fait quand je fais mon quartier je gagne du pognon. Donc je me fais plaisir, je mets des universités, je mets des services gratuits, enfin c'est vraiment, c'est la fête, et du coup, voilà. Alors,
encore une ville de utopiste de gaucho, quoi.
Ouais, complètement. Alors, moi, il y a des transports en commun partout. Hein.
Bientôt, il va nous dire que le centre-ville est interdit aux voitures.
Je vais le faire.
Alors,
je vais le faire.
Tu m'as hypé, il y a une question qui pourrait me faire basculer vers un achat ou pas. Est-ce qu'il y a un Godzilla?
Ah.
Alors, je n'ai pas vu de catastrophe naturelle jusqu'à présent.
Ok.
Donc, je ne sais pas si... Je suppose que ça existe dans le jeu, mais je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu. Alors, soit c'est pas activé par défaut, soit ça n'existe pas.
Mm-hmm.
Mais, voilà. J'ai pas vu, mais t'inquiète pas, il y a déjà suffisamment de merde qui peuvent arriver comme ça.
Non, mais c'est bien. Tu m'auras vendu qu'un jeu cet été.
J'ai fait une ville. J'avais commencé une ville. J'étais content. J'avais fait un truc sympa, j'avais fait une espèce de grille. Voilà, il y avait un petit quartier historique où j'avais mis des petits trucs sympas. Voilà. Je m'étais bien amusé. Et j'avais construit un hôpital. enfin une clinique ou le premier truc de soins que tu as, genre un dispensaire ou je sais pas quoi, parce que ben il fallait le faire. Et en fait, au départ, j'avais mis un budget relativement limité à la clinique parce que ben il y avait genre 100 lits pour 4 patients, donc j'ai dit ok, ben on va faire 30 lits pour 4 patients, ça devrait largement suffire. Et j'ai oublié de remettre le niveau normal, c'est-à-dire quand il y a eu plus de malades. Et du coup, il y a eu une épidémie. Et du coup, en fait, il n'y avait plus assez de lits pour la clinique. Et du coup, j'en ai mis une deuxième. Mais en fait, ça marchait pas parce qu'il y avait plus de malades que de cliniques à chaque fois que j'en rajoutais. Parce que c'était vraiment une épidémie. Et du coup, ils sont tous morts. C'est le genre de truc qui peut t'arriver, quoi. Donc, c'est...
Tiens, je m'auto-réponds. Ça existe. C'est sur PC. C'est le troisième DLC.
Ah, merde.
Et fait chier. Voilà. La version Switch n'embarque que les deux premiers.
Il embarque que les deux premiers. Et voilà. Mais... franchement, ça reste un bon jeu. Alors après, évidemment, si vous pouvez y jouer sur
PC... C'était une parenthèse, hein, c'est pour faire chier. Ouais.
Mais si vous pouvez y jouer sur PC, avec tous les DLC sur PC, il doit coûter 35€ ou 40€. Là, sur Switch, on peut le récupérer à 30€, voire moins. Donc c'est quand même pas inintéressant. Mais le gros avantage d'y jouer sur Switch, c'est quand même que moi, j'en ai fait une bonne partie de ces 20h au parc en surveillant les gamins. C'est agréable. C'est très 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 agréable. Donc voilà, c'est encore une fois la portabilité, c'est quand même un argument. Après, Zergy disait que le jeu RAM, franchement ça va.
Ouais, j'imagine que si tu fous, ouais, ça dépend de ce que t'affiches et de ce que tu as construit.
Ça dépend de ce que t'affiches. En fait, quand tu restes sur une vue très éloignée, ça va. Dès que tu te rapproches, le temps qu'il charge les détails, ça ramouse un peu. Et ensuite, dès que tu vas aller bouger d'un quartier à un autre, il faut quand même qu'il charge plein de détails, donc oui, ça rame un peu. Mais honnêtement, pour un jeu de ce type-là, ça me dérange pas, surtout que SimCity 4, à son époque glorieuse, quand j'y jouais encore en 2005, 2006, 2007, même sur un très gros PC, il ramait aussi. Hein. Je veux dire, il pouvait tourner à 4 images secondes parfois. Donc bon, c'est un peu inhérent à ce genre de jeux-là qui sont très très durs sur le CPU. Donc,
Et ouais, dès que tu commences à avoir beaucoup de trucs, c'est pareil sur Civilization. Alors, la version Switch, j'ai pas essayé, mais c'est vrai que ça tourne bien.
Ouais, ça tourne bien. Mais après, voilà, y a un moment où tu peux arriver à la mettre à genoux si t'as envie. Mais...
Bien sûr, quelle que soit la partie, de toute façon, en fin de partie, il y a tellement de trucs sur la carte que ça rame un peu, et puis tes tours et demi, ils durent 2 minutes, quoi.
Mais honnêtement, pour un jeu de ce type-là, ça me choque pas. Mais et là, ça reste raisonnable. Encore une fois, j'ai une ville qui doit faire 50 000 ou 60 000 habitants maintenant, qui a 3 grandes zones, parce qu'en fait, tu commences par une zone délimitée de 2 km², et en fait, tu peux acheter les zones d'à côté.
Ok.
Pour agrandir ta ville. C'est-à-dire, au bout d'un moment, les 2 km², tu les as remplis, donc tu peux aller acheter les 2 km² à gauche, à droite, en haut, en bas, et ainsi de suite. Je sais pas combien on peut en acheter au total. Je pense que ça doit être limité. Pour moi, tu dois avoir 9 carrés au total de 2 km², ça me paraît très logique. Mais voilà. Donc, je dois avoir 3 ou 4 carrés. Pour l'instant, voilà, pas de gros signe de ramage. Maintenant, je me doute qu'effectivement, du côté du endgame, quand t'as 900 000 habitants, ça doit être un peu plus raide. Je repasse la main à Monsieur Mecton pour Octodad.
Ouais, bon, je vais être très rapide là-dessus. Petit jeu qu'on a découvert avec ma copine. Alors, pour le coup, elle le connaissait déjà. Alors, le pitch. Reprenez une bière, hein, vous en allez en avoir besoin. Vous jouez un poulpe qui doit évoluer dans des situations de la vie quotidienne.
Tout à c'est fait. Méduse.
Putain, je suis dans le thème pieuvre avec Splatoon ce soir, moi. Bref, donc il doit évoluer dans des situations de la vie quotidienne sans se faire gauler sur le fait qu'il est un poulpe. Voilà. Alors, tout seul, c'est sympa, mignon, rigolo. Là où ça devient très drôle, c'est quand on y joue à plusieurs, parce qu'on peut... En gros, revoir les contrôles. Donc le personnage, il se contrôle membre par membre. Donc tu as un bouton pour jouer sur la jambe gauche, jambe droite, bras gauche, bras droit. Quand tu y joues à plusieurs, tu te répartis les membres sur les joueurs.
Oh putain.
Et alors là, mais c'est... Là c'est drôle, le simple fait de devoir ramasser un chapeau, tu détruis la moitié du décor tellement tu fais nimp.
C'est le clumsy simulator, c'est un peu comme Human Fall Flat où en fait les contrôles sont tellement pétés que tu peux
c'est
pas
ça.
Vraiment...
Mais c'est, pour moi c'est sur la, ce serait à mettre sur la même étagère. Quoi. Et voilà, il y a une DA qui est drôle. Parce que dès que t'es à... L'indicateur sur le fait que t'es à la limite de te faire choper, c'est les regards des gens autour de toi. Donc quand ils commencent à te regarder avec des grands yeux écarquillés, tu sais que t'as fait une connerie, il va falloir évoluer doucement, essayer de marcher correctement, sans renverser tous les poteaux qui sont autour de toi. C'est très très drôle. très très drôle et je le conseillerais surtout à plusieurs.
D'accord, donc presque un party game.
Ouais, presque, non, parce que les niveaux sont très courts et... Non, ouais, c'est drôle.
D'accord.
Voilà.
Eh ben, écoute, tu me l'as presque vendu, en tout cas. j'ai beaucoup aimé Human Fall Flat parce que je trouvais ça vraiment fun. J'ai pas essayé à plusieurs, mais je pense que c'est le genre de jeu qui peut être assez rigolo quand c'est bien fait.
De toute façon, tu les as à deux dès le début en disant « Moi, je prends la partie gauche, toi la partie droite. »
Oh, putain.
J'ai pas encore essayé à quatre avec un membre chacun, ça doit être...
Ça doit être l'enfer. Bref, nous allons marquer une première petite pause musicale et je vais encore une fois me faire un gros kiff. J'ai qu'un seul truc à reprocher à Cities Skylines, c'est pas la musique de SimCity. Donc, si je dois vous donner un conseil pour jouer à Cities Skylines, vous coupez la musique de Cities Skylines, parce que vous avez besoin des effets sonores, en fait. C'est ça qui va vous indiquer s'il y a des problèmes ou pas dans votre ville, donc vous en avez besoin. Mais voilà, vous faites ça et vous mettez la BO de SimCity sur Super NES, et là, c'est le kiff. Là, normalement, vous êtes dans un état de zénitude absolue, même si, normalement, vous devriez être en stress à mort. Vous devriez arriver à vous en sortir. Donc on va s'écouter le thème principal, celui de l'écran titre de SimCity sur Super NES. On se retrouve dans 3 minutes. Et nous voilà de retour. Et Zergy nous a quittés. Il est parti vers le monde meilleur du travail.
Il est allé partir rocher des Terrians.
Hey.
Voilà, il est allé malheureusement remplir son office parce que nous devons tous remplir nos gamelles. Et nous n'avons pas tous la chance d'avoir des clauses de non-concurrence totalement abusives.
Et ça, il y a bien un mois de septembre à faire face.
Ouais, voilà. Si tu veux avoir ton budget, il va falloir en chier.
C'est ça.
Bref, dans les jeux de cet été, il y a eu aussi du Nintendo. Alors, il n'y a pas que des jeux qui sont sortis cet été, il y a des jeux qui sont sortis fin juin et qu'on n'a pas du tout eu le temps d'aborder. On va commencer très rapidement par un petit jeu mobile, c'est Antix qui va nous parler de Dr. Mario World.
Sorti le 10 juillet.
Voilà.
Et j'en avais déjà parlé, je crois, sur la dernière émission, l'avant-dernière, lorsqu'il y avait eu la petite présentation. Bon, il se trouve que j'ai téléchargé le jeu par curiosité. Bon, les premiers niveaux sont pas très passionnants. Hein. Bon.
Ouais, c'est un gros tuto.
Ah, c'est un gros tuto. Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas Dr. Mario, c'est d'aligner des pilules sur des virus pour les faire disparaître. Et là, en fait, on a une version free-to-play un petit peu à la Candy Crush, où en fait, le nombre de coups par tableau est limité. Ce qui fait que on peut très bien ne pas finir un tableau parce qu'on appuie à cette gélule. Donc en soi, le principe n'est pas inintéressant parce que il y a quand même des petites stratégies à avoir pour avancer sur les tableaux. Mais bon, l'idée à la base, hein, c'est évidemment de pouvoir faire crasher les gens. J'aurais donc la joie de vous annoncer que j'ai terminé le jeu sans dépenser un seul centime, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. c'est pas du tout un jeu qui te fait payer en fait, parce qu'il y a deux modes de jeu. Il y a le mode solo, où tu as un nombre de coups limité et un nombre de... Bah, t'as des vies comme dans Fire Emblem Heroes, par exemple. Donc tu peux pas jouer à l'infini. Faut que ça recharge, c'est genre un cœur toutes les demi-heures, sachant que t'en as 5 maximum à recharger. Et à côté, t'as le mode bataille, où tu joues contre des joueurs, en ligne, qui est vache. Pour le coup, je trouve très bien, trop sympa, ça se fait très très vite. De toute façon, les parties ont forcément une fin, puisqu'au bout d'un moment, la zone diminue et tu arriveras forcément à... Enfin, tes virus arriveront forcément au bord de l'écran.
Ça, il y a un truc à la Bomberman qui réduit la zone de jeu, quoi.
C'est ça. Mais ça, tu peux y jouer autant de fois que tu veux. Il n'y a pas de limite, en fait, de jeu pour le mode bataille. Donc, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à payer pour jouer au jeu. Enfin, c'est plutôt la bonne chose, en fait, pour le coup. Et voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est un bon jeu pour passer le temps, très sincèrement. Je trouve pas que ce soit non plus un puzzle game exceptionnel. Les quelques niveaux assez sympas en temps limité, donc faut vraiment bien enchaîner ces gélules. Mais
ouais, c'est les niveaux les plus durs pour moi.
C'est les niveaux les plus durs, sachant qu'en plus t'as en plus des personnages, donc t'as pas que Docteur Mario, en fait tu vas jouer avec toute la clique de Mario, mais grimé en docteur. Et certains des personnages ont des pouvoirs spéciaux pour te faciliter la vie, donc certains sont plus efficaces sur d'autres niveaux. En vrai, si vous jouez, je vous conseille de prendre Bowser dès le début, parce que c'est celui qui a le plus pété, hein, clairement. Femme de ligne d'un coup, un petit peu aléatoirement, mais ça peut sauver la vie sur des missions. Mais voilà, c'est plutôt fun. Par contre, faut avoir une connexion, et je vous conseille plutôt une bonne connexion, puisque le jeu est en permanence connecté, y compris quand vous faites les puzzles en ligne. Et je peux vous dire que sur les puzzles en temps limité, lorsque ça bloque et que vous perdez 20 secondes parce que ça chargeait, c'est très chiant. Mais ça m'a fait un bug rigolo une fois dans le métro où le timer s'est bloqué. Donc j'ai pu finir la mission normalement. Putain,
oh alors stylé, je sais pas. Je sais pas si c'est le terme que j'emploie.
Par contre, c'est un jeu qui au début avait énormément de problèmes réseau. Et moi, je trouve qu'il y en a toujours. Et pour moi, c'est absolument aberrant qu'en solo, tu dois être connecté en permanence à Internet alors même que tu es en train de jouer en fait. Et ça provoque des petits lags et des freezes qui sont vraiment extrêmement énervants quand tu joues au jeu.
Ouais, mais c'est la maladie du siècle, ça, hein, sans vouloir.
Ouais, bah en plus, c'est tous les free-to-play japonais sont connectés en permanence, mais tu vois, genre même Fire Emblem, tu lançais une mission, et bah ils se connectaient pour valider le fait que tu lances la mission, mais une fois que t'étais dedans, ils s'en foutaient que tu sois pas déconnecté à internet, tu peux continuer à jouer.
Il faut que tu sois juste connecté quand tu l'as fini pour qu'il upload le résultat.
C'est de la synchrone en fait, c'est aussi bête que ça. Le truc peut garder le résultat en local.
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est pour éviter la triche et les trucs comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du pognon.
En fait, dans le cas de Fire Emblem, c'est un jeu à tirage aléatoire de personnages. Donc, forcément, à chaque fois que tu fais un tirage, il envoie l'info au serveur pour éviter que derrière tu puisses truander et j'ai pas eu mon perso, je recommence.
Ouais. Je trouve ça un petit peu limite, moi, personnellement.
Oui, non, moi, je suis bas. Pour Docteur Mario, en solo, je trouve que ça n'a aucun intérêt, mais bon. Ouais. Je vois pas l'intérêt de rester en ligne. En multi, oui, clairement, puisque t'es en temps réel quand t'es adversaire.
T'es en temps réel, oui, de toute façon, donc il vaut mieux que ça marche.
Voilà. Mais voilà, bon, c'était sympa. Je joue encore un petit peu de temps en temps, mais forcément, tant que j'ai fait tout ce qui est disponible, j'ai pas grand-chose à faire.
Ouais, ils vont en rajouter un peu des niveaux, je pense.
Ouais, sachant qu'en plus, les derniers rajoutés étaient quand même assez balèzes, donc je pense que ça va être de plus en plus dur. Mais c'est sympa, si vous aimez bien les petits puzzle games, si vous aimez bien Docteur Mario, je vous conseille. De toute façon, c'est gratuit.
Mais on peut finir le jeu sans payer.
Voilà, ça c'est la beauté de la chose.
Voilà, nous ne parlerons pas de Mario Kart Tour, parce que nous respectons.
Oh ouais, putain, ça a l'air horrible.
Stop.
Enfin, les retours de la bêta étaient assez exécrables sur le modèle économique.
Ouais, mais bon, enfin, c'est... les jeux mobiles, je crois que c'est vraiment sans espoir, personnellement.
Tiens, d'ailleurs, tu vois, on en parlait, est-ce que c'était la fin d'une époque ou pas ? Tardy nous a balancé un petit graphique, a priori, Dr. Mario World a vraiment beaucoup de mal à percer.
Ouais, mais en même temps, comme je te dis, tu peux finir le jeu sans souci. Par contre, c'est vrai que niveau téléchargement, c'est de la merde. Hein.
Ouais. On va enchaîner sur un truc peut-être un tout petit peu plus intéressant, Super Mario Maker 2. Alors, on en a parlé un petit peu lors de la saison dernière, parce que forcément, on a eu un Nintendo Direct où on t'a... Il y a une espèce d'enchaînement pendant 20 minutes de « Regarde, il y a tout ça comme nouveauté. Bam, bam, toutes les 30 secondes, t'en as une. »
Ça c'est Nintendo Direct, tu dis « Oh, ils vont faire une suite facile, et puis là... Oh non, il y a ça
yeah !»
Et puis, ouais, bon, laissez-moi.
Donc c'est... Voilà, c'était cool. Maintenant, le jeu, il est sorti. On y a joué. Donc, à part Toadette qui te fait des propositions un petit peu indécentes dans le château...
mais les gens de la trad.
Moi, j'ai vu que Toadette...
Mais je les aime.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on a à dire de ce Super Mario Maker 2 ? Moi, j'y ai joué un petit peu. Je dois vous avouer que j'ai fait de la construction de niveau. J'y ai joué à plusieurs, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait du jeu à 2, à 3, à 4. Mais j'ai pas vraiment fait de solo, en fait. Finalement, le solo, j'ai un peu laissé de côté, parce que malheureusement, j'avais...
On va se compléter.
Mais voilà, mes enfants, à moi, par exemple, ont beaucoup moins accroché que sur le premier.
Ah oui ?
Ouais. Alors que pourtant, je sais pas, il y a plus de possibilités, c'est débloqué plus vite.
Et est-ce que c'est pas à cause de l'interface ?
Alors, je sais pas, parce qu'eux, ils y jouent quasiment qu'en portable.
Ah, d'accord, oui. Donc, tactile, du coup.
Okay. Ils sont en tactile. Par contre, comme il n'y a pas de stylet, j'ai l'impression que ça les bloque un peu.
Parce que tu ne l'as pas précommandé.
Bah, franchement, là, pour le coup, le stylet, je comprends pas qu'il ait pas été fourni dans le jeu, parce que pour avoir essayé sans stylet au truc pré-E3, c'est... Enfin, moi, j'ai des gros droits, en plus, donc...
Bah, tu me diras, je l'ai, il est encore emballé, le truc.
Bah, bravo.
Ouais, mais bon.
Non, mais je comprends pas qu'il l'ait pas vendu avec, moi, par contre, ça, c'est...
Bah, tu prends n'importe quel stylet compatible avec un téléphone, ou alors mieux, alors l'astuce d'un collègue, comment dire, Maxime, si tu nous écoutes... Non, non, une Knacky.
Putain,
c'est son astuce pour manipuler son téléphone quand il fait froid et qu'il a des gants, c'est il a une Knacky dans la poche. C'est une histoire vraie, hein, c'est véridique. Ça marche très 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 bien. Oh, voilà, comme ça vous avez appris une astuce complètement folle.
Le SAV, il est au courant de ça ou pas?
De la Knacky?
Ouais.
Mais écoute, moi je constate qu'effectivement ça marche. À partir de ce moment-là...
Le journalisme total.
Il y a un moment ils diront mais il y a du gras sur votre écran, je comprends pas.
Mais non, mais justement la Knacky n'est pas grasse. C'est ça qui est formidable. La Knacky contient très peu de gras. Cette émission n'est pas sponsorisée par Erta. C'est mal précisé. Parce qu'on sait jamais, on pourrait dire qu'elle fait la promo des Knacky. Bref, enfin, Super Mario Maker 2, enfin, moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai essayé de construire comme niveau, j'ai pas fait grand chose. Hein, j'ai vraiment juste regardé un peu les possibilités. C'est comme le premier, en fait. C'est un peu more of the same. C'est un peu plus gros, plus grand, plus de trucs. Il y a tellement de possibilités, c'est tellement la folie, on peut tellement faire n'importe quoi, on peut faire des niveaux verticaux, horizontaux, qui vont vers le bas, qui vont vers le haut, qui vont vers la droite, qui vont vers la gauche, qui se téléportent, qui...
Et c'est ça, quand même assez pété. Le mode solo t'en donne une bonne vision.
Ah ouais ?
De toutes les possibilités de bâtard qu'il y a dans ce jeu. Alors perso, j'ai fini le mode solo. Et bah du coup, à chaque niveau, tu te dis, mais comment ils ont encore eu cette idée à la con ? Et par contre, je n'ai pas trouvé comment passer un niveau du mode solo en mode édition pour voir comment c'était foutu.
Ah merde, c'est con ça.
Alors c'est peut-être possible, mais comme tu dis, en fait, il y a d'autres choses qui sont sorties après qui font que j'ai éjecté la cartouche et que je n'ai pas encore remis.
Ah, mais quel jeu tu parles?
Je ne sais pas.
Fire Emblem. Bon bref, ça a été compliqué Fire Emblem cet été quand même.
Putain.
Est-ce qu'il y a eu un autre jeu cet été?
Oui, alors oui. Il y a eu aussi, donc, bon, malheureusement Super Mario Maker 2, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on est tous au même point, c'est-à-dire c'est cool, on y a joué, on a essayé, il y a plein de possibilités, c'est vraiment très bien, il y a un mode solo qui est cool, il y a...
Ah mais vous y avez joué en plus, hein.
Ouais. Ah, non mais moi, nous on y a joué en plus.
Il y a les studios indés qui jouent le jeu et qui ont publié des trucs,
oui,
rigolos.
Oui, ça c'était énorme.
Et le Matt de Matt McGames, donc le mec qui a fait Céleste, dans le studio a fait Céleste, il a publié des trucs et enfin tu retrouves l'esprit de Céleste, hein, tu fais mais enfoiré quoi.
Céleste dont le chapitre 9 c'est toujours pas sorti, hein.
Ouais, oui, mais enfin voilà, mais c'est là que tu vois qu'il y a quand même des gens dont c'est le métier.
Mm-hmm.
Parce que dans les niveaux que tu peux télécharger, il y a de très bonnes idées.
Eu un pong, un mec a refait un pong.
Non mais attends, il y a des mecs qui ont fait des trucs, les niveaux énigmes, il y en a qui sont quand même assez énormes quoi.
Et ça, c'est... Ouais, tu Tardy qui envoyait des trucs. Voilà.
Tu débarques dans un niveau, il est tout petit, et l'objectif, c'est juste de passer la porte. Et t'es là genre, merde, mais comment je vais faire? Il y a un ennemi là, ah, il y a une tortue. Et puis tu commences à envoyer la tortue. Puis en fait, tu l'envoies d'une certaine manière, ça marche pas. Tu l'envoies d'une autre manière, ça marche pas. Et quand t'envoies la tortue, ça marche, mais tu peux plus passer. Il y a vraiment des trucs hyper tordus, où en fait, l'objectif, c'est juste d'aller trouver l'enchaînement d'actions précis qu'on te demande pour arriver jusqu'à la porte, et c'est vraiment une énigme, quoi. C'est... De toute façon, faut mourir, recommencer, jusqu'à ce que t'aies compris ce qu'il faut faire exactement. Mais ça, c'est des niveaux assez fous. Hein. Effectivement, Tardy, il en a envoyé plein. Mais voilà, mais c'est là que tu vois que c'est un métier. Il y a aussi monsieur... merde, j'ai plus son nom en tête. Game Maker's Toolkit.
Mark Brown,
qui avait fait une petite vidéo qui doit durer un petit quart d'heure, qui explique bah, comment... si vous débutez à Super Mario Maker 2, comment on fait pour faire un bon niveau. Il faut commencer par... Alors le mec dit en gros, il faut essayer de se concentrer sur un ou deux éléments, il faut faire ça à la Megaman, quoi.
Ah oui.
C'est-à-dire tu mets une plateforme qui bouge, puis tu mets un ennemi, puis après tu mets un ennemi sur une plateforme qui bouge. C'est-à-dire que voilà, une fois que t'as compris le premier, t'as compris le deuxième, tu peux passer à la combinaison des deux.
Et il disait un truc qui était très malin aussi, et que quand je regarde des mecs jouer à Mario Maker, je vois qu'ils oublient souvent, c'est le côté... si t'as besoin d'un truc très spécifique pour passer, pour que ton joueur il puisse faire autant d'essais qu'il ait envie...
Oui, donc faut mettre un checkpoint juste avant.
Non, par exemple, il y a ça, mais par exemple, t'as besoin d'un ressort pour traverser un trou ou un truc comme ça. Bah, imagine, le mec, il se plante, et il a quand même réussi à... Il est pas mort, tu vois. Mais du coup, si le ressort n'est plus accessible, il peut plus avancer, en fait, il est bloqué.
Oui, je vois le
truc. Toujours faire en sorte que le joueur, quel que soit la... Il ne peut pas être bloqué si jamais il réussit pas, du premier coup.
D'accord, effectivement, très bon conseil.
Et si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à cliquer sur le pigeon, hein. Ce genre de conseil, il vous les donne en jeu.
Bah, je crois que d'ailleurs, ce conseil-là, d'ailleurs, est donné par le pigeon. Hein.
Peut-être.
Du coup, nous sommes des pigeons.
Mais oui, ça s'est très bien fait aussi, il y a des cours dans le jeu.
Ouais, des cours de level design.
Oui.
Enfin, en même temps, c'est un peu le concept du jeu. Hein.
Oui. Mais je pense que ça fera naître... Enfin, j'espère en tout cas que ça fera naître des vocations chez certains. C'est-à-dire que les enfants et jeunes adolescents qui jouent à Super Mario Maker 1 ou 2, d'ailleurs, j'espère que ça les intéressera derrière d'essayer de faire du game design. Pourquoi pas, hein. Après tout, ça peut peut-être faire naître des vocations. C'est peut-être l'objectif de Nintendo, en fait. Ils recrutent, tu vois, dès 8 ans avec les jeux.
C'est l'école asiatique.
Et derrière, ils mettent une clause de non-concurrence totalement. Bon, attendez. Non. Bref. Bref, le dernier jeu qui est une exclusivité Nintendo, qui est publié par Nintendo, attention les yeux.
Développé par Koei Tecmo Game.
C'est Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order Circus Edition Premium plus Black Ops 3.
Et non, ce n'était pas Fire Emblem.
Pas encore. Alors, je crois que Mecton, tu l'as.
Non.
Pas du tout. Et Antix, pas du tout non plus.
Pas du tout non plus.
Donc, je suis le seul.
Ah!
Alors. Bon, déjà, c'est Marvel, donc c'est de la merde. Voilà, donc j'attends que Nintendo fasse DC Ultimate Alliance 3 The Black Order, et là, éventuellement, je m'y mettrai. Non, blague à part, donc c'est un gros beat'em all qui se joue. Alors, c'est un gros beat'em all qui ressemble un peu à un Baldur's Gate. C'est-à-dire qu'en fait, on est à 4, c'est systématiquement une équipe de 4, un peu comme dans un jeu de rôle, en fait, c'est systématiquement une équipe de 4, sauf que là, au lieu d'avoir un elfe, un nain, un archer, un voleur, là, tu as Spider-Man et d'autres personnages qu'on s'en fout parce que c'est Marvel. Bref.
Spider-Man en fille, Spider-Man en gamin et Spider-Man en cochon.
Oui, Spider-Cochon. C'est un personnage intéressant. Bref. Voilà, il y a plein de personnages de l'univers de Marvel. Alors évidemment, quand tu demandes au gamin de jouer avec toi, il prend Spider-Man, tu prends Wolverine et les autres, ils se démerdent, on s'en fout. Parce qu'en gros, c'est à peu près comme ça que ça se termine. Chaque personnage a ses petites spécificités, notamment un spécial pouvoir, et il y en a en fait certains qui peuvent se combiner. Ça fait partie de l'intérêt du truc. C'est-à-dire que t'as de temps en temps intérêt à prendre certains couples de personnages parce qu'ils vont avoir des pouvoirs qui vont bien se combiner. Alors j'ai pas d'exemple en tête là comme ça parce que j'ai pas joué au jeu depuis qu'il est
sorti.
Non, depuis qu'un autre jeu est sorti. c'est compliqué. Mais genre t'as un personnage, enfin vous imaginez, t'as un personnage qui génère de l'huile, t'as un personnage qui fait du feu, et ben ça marche bien ensemble. C'est foireux comme exemple, c'est extraordinaire. Bref. Et donc c'est un gros beat'em all qui est obligatoirement à 4, c'est-à-dire que quand tu y joues à 2, il y a 2 CPU avec toi, mais tu peux changer, en fait, switcher de personnage à tout moment. Donc si tu peux abandonner ton personnage pour prendre un autre personnage à tout moment. Et donc tu bastonnes dans des grands niveaux, malheureusement un peu vide, malheureusement un petit peu vite répétitif.
Surprenant, tu vois.
Bah, Koei Tecmo, quoi.
Ouais, ça ressemble quand même beaucoup à du Diablo aussi, donc...
Ouais, mais Diablo... J'ai taquisé la saucisse de Manteau. Excusez-moi, je saurais pas lire le chat en même temps. Bref, donc... Enfin voilà, ça marche bien, c'est-à-dire que le jeu fonctionne bien, le mécanisme de synchronicité des héros, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais enfin, t'as des héros qui peuvent devenir synchrones et paf, ils déclenchent leur pouvoir et ça fait des trucs trop bien, et ça fait des explosions à l'écran et tout ça, c'est cool, ça marche bien, le fanservice est là, moi je suis pas un grand fan de Marvel, mais les gamins aiment bien, donc ça marche bien. Honnêtement, tout seul c'est une purge, parce que l'IA est à la rue. Quand tu déclenches un pouvoir, tu t'attends à ce que le mec qui est complémentaire avec toi le déclenche à peu près en même temps. Sauf qu'il est trop con. donc tu finis par switcher de perso, commencer à déclencher le pouvoir, re-switcher de perso, déclencher ton pouvoir. Enfin voilà, c'est quand même un peu une purge. Par contre, à plusieurs, c'est relativement marrant, mais à petite dose. Voilà. Donc c'est, je comparerais bien ça à un beat'em all en arcade. C'est-à-dire que c'est pas hyper intéressant de finir tout le jeu d'affilée. Street of Rage, au bout du troisième niveau, moi ça commence à me gaver. C'est cool, mais voilà. Par contre, si tu fais les deux premiers niveaux, que tu fais une pause, que tu fais le troisième, que tu fais une pause, et ainsi de suite, ça passe. Et à plusieurs. À trois, ça passe très bien, par exemple. Parce que même si un joueur fait un peu de la merde, la gamine, on va dénoncer, moi je dénonce.
Ça balance.
Bah écoute, voilà, balance ton porc.
Balance ta famille, ouais.
C'est ça, non mais voilà, même si la gamine fait un peu du caca, c'est pas trop grave parce que t'arrives à rattraper le truc assez facilement. Même si l'IA du dernier mec est un peu la rue, bah de temps en temps tu alternes entre toi et l'autre IA et puis tu arrives quand même à rattraper le truc. C'est cool, ça marche. Voilà. Donc, à plusieurs, par petite dose, ça peut passer. Par contre, voilà, clairement, c'est pas le jeu de l'année. Mais comme l'était Marvel Ultimate Alliance 1 et 2, des jeux qui étaient loin d'être exceptionnels. Là où c'est un petit peu plus décevant quand même, c'est que ça rame du cul, et pas qu'un peu.
Ah.
voilà. Voilà, ça c'est un peu chiant, c'est-à-dire que...
Oui, Tecmo.
Bah, c'est un peu ça, ouais. Tant qu'il n'y a pas trop d'action à l'écran, ça va. Dès que tu commences à combiner les pouvoirs, qu'il y a des explosions et tout ça, alors là, ça devient le... C'est le PowerPoint à la fin. Hein. Donc quand même un petit peu compliqué. Alors, c'est pas le cas tout le temps, hein, mais là, ça se voit vraiment. C'est-à-dire, autant sur Cities Skylines, genre, si le truc est à 15 FPS, bon, tu le verras, mais tu t'en fous un peu. Là, c'est un peu gênant. Voilà. Et c'est tout. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus, parce que Marvel Ultimate Alliance, quoi.
Et Koei Tecmo.
Donc voilà, donc on va marquer une deuxième pause musicale et on va se refaire un gros kiff. On va écouter le thème de la ville dans SimCity. Alors vous allez me dire, SimCity c'est déjà une ville, connard. Oui, c'est vrai. Néanmoins, il y a plusieurs niveaux.
C'est vrai que t'es un connard.
C'est vrai que je suis un connard. Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on commence en village, puis petite ville, puis cité, puis capitale, puis mégapole, et ainsi de suite. Donc là, c'est le terme de la ville, c'est-à-dire le deuxième niveau, si je me rappelle bien, de ta ville quand t'atteins les je sais plus combien d'habitants sur la version Super NES. C'est toujours la version Super NES. Et on se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Et nous allons donc entamer la dernière partie de cette émission avec les restes du monde. C'est-à-dire les autres trucs qui sont sortis cet été auxquels on a joué et qui ne sont pas Fire Emblem.
Quel jeu?
Emblème. Emblème de feu 3 maisons. Ou Emblème de feu 4 saisons.
Ça dépend de la route.
Est-ce que le prochain s'appellera Emblème de feu 4 fromages? Moi, c'est quand même ça que je...
Ça se passera en Italie, entre l'Italie et la France. Et en fait, les méchants, c'est les Anglais avec leur Shadar.
Non, mais moi, je propose de faire...
Fire Emblem Monty Python.
Non, mais tu pourras avoir Fire Emblem norvégienne aussi. Parce que c'est quand même dégueulasse, quand même. Pizza avec du saumon et de la crème fraîche, arrêtez de... Hawaïenne, merde.
Ouais, la Hawaïenne. Non, mais la Hawaïenne, c'est avec des ananas. Hein.
Bref. Donc, nous allons parler de deux petits jeux. Alors, je sais pas, tu veux commencer, Mecton, éventuellement,
ouais,
avec
y aller vite,
Dragon hein. Quest Builder 2, que tu as abandonné lâchement après avoir joué à faire.
C'est ouais. Fable. Quel jeu?
Alors, j'avais fait la démo du premier. C'était très cool. J'ai acheté le premier.
Le premier était très cool.
Ouais, j'ai acheté le premier.
Le principe, c'est quoi, en fait? Parce que comme pour les gens qui n'en ont rien à foutre.
C'est...
Tu vois Minecraft?
Tu vois Minecraft Dragon Quest, oui. Voilà. Tu mixes Minecraft dans l'univers de Dragon Quest et tu y mets un scénario.
C'est... Un quoi?
Ouais, un scénario. C'est un truc, pas. Une histoire.
Ouais, alors,
un le truc qui se passe quand tu
spammes A, là. De Dragon Quest, quand même. Hein.
Alors voilà, c'est du archi classique, mais moi, ça me suffit à me maintenir là-dedans. Là où Minecraft, j'ai très très vite décroché, justement, parce que le jeu te lâche en disant, ben voilà, tu peux tout faire. Je dis, oui, ok, je peux tout faire, mais je n'ai pas d'imagination. Qu'est-ce que je fais?
Je n'ai point d'objectif. Que se passe-t-il?
Guide-moi, jeu.
Alors que dans Dragon Quest Builders, il fallait sauver le monde.
C'est Dragon Quest. Hein.
Et mine de rien.
Et dans Dragon Quest Builder 2, faut sauver le monde deux fois.
Et d'ailleurs, la petite anecdote du premier Dragon Quest Builders, c'est que en fait, ça se base sur la mauvaise fin du premier Dragon Quest, où le boss final te propose de conquérir le monde avec lui. Ah, et donc, dans le jeu d'origine, si tu dis oui, t'as un game over. Enfin, si tu dis non, bah, t'as le boss final. Et si tu dis oui, t'as un game over. Et en fait, là, c'est basé sur le fait que le héros du premier, en fait, a dit non. Et donc, le méchant a dit oui, a accepté la proposition du méchant. Et du coup, le monde a été détruit.
Il y a une timeline et tout, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, le boss final du premier Dragon Quest Builder, c'est le boss final du premier Dragon Quest.
Hmm. Ok.
Et d'ailleurs, tu affrontes d'ailleurs le héros qui a dit qui s'est allié au méchant à un moment dans le jeu. C'était très amusant.
C'est
bref. C'était l'instant anecdote.
Yep. Alors du coup, la grosse nouveauté de celui-là, c'est qu'il y a un mode coop. Alors qu'il se débloque qu'au bout de quelques heures de jeu. Je crois qu'il faut au minimum avoir fini la première île. Ah, les îles. Donc quand le jeu commence, il y a un petit tuto qui est sympathique. En fait, tu es à peu près direct dans le feu de l'action, mais avec des actions limitées. Ça va te donner l'occasion de les découvrir petit à petit. Un événement se passe et tu te retrouves propulsé sur une île qui est en gros le mode bac à sable du jeu. Mais toi, tu viens de sortir du tuto, donc tu sais pas encore exactement comment marchent les choses. Donc bah, tu fais 2-3 bricoles, machin, et rapidement le scénario te rattrape et te dit bah, en fait, il y a des choses à faire sur une autre île qui est à côté, vas-y, tu y vas. Cette île, il y a une petite quête fil rouge qui va te servir à découvrir l'agriculture. Une fois que tu as tout fait, tout bien, tout beau sur cette île, bah, tu retournes sur ton île bac à sable. Et là, bah, tu te dis, bah, tiens, je vais construire une ferme, des petits champs. Et donc, tu réponds aux besoins de ta population grandissante en leur donnant à bouffer. Et ok, très bien, mais nous, on aimerait que les choses aillent mieux, qu'on ait plus de choses et tout. Pas de souci, le scénario te rattrape, tu pars sur la deuxième île qui va te servir à découvrir toutes les mécaniques de forge. Et ça se répète un certain nombre de fois. Je peux pas vous dire combien, j'ai pas fini le jeu.
Et un autre jeu, apparemment.
Ouais, je sais pas, mais bon, voilà, c'est assez cool. Alors, faut aimer, par contre, les scénarios bavards. C'est-à-dire que souvent, les mecs vont te parler pendant 4 ou 5 petites bulles de texte à la Dragon Quest, juste pour te dire c'est bon, t'as ramassé une carotte, je suis fier de toi.
D'accord. Alors, ça va pas être possible.
Ouais. T'as une option pour régler la vitesse du texte pour que ça passe plus vite.
Putain, quand tu mets des options comme ça, c'est que t'as quand même un problème.
Je sais pas, mais bon, voilà, on s'y fait, c'est mignon, ça se joue très bien, c'est blindé de petites animations rigolotes. Genre si tu construis alors une cuisine, tu viens poser un coffre dedans, tu poses tes provisions, les PNJ vont automatiquement choper les provisions pour cuisiner des trucs. Si tu as posé une table à l'extérieur, ils vont sortir la bouffe, la mettre sur la table, comme ça t'auras pas à le faire toi-même, pour que tes autres PNJ viennent bouffer, pour être plein d'énergie, pour aller labourer tes champs ou forger des trucs.
C'est un simulateur d'esclavage.
Y a un petit côté Sims, c'est drôle. Tiens, tu peux faire... Il y a un chiotte, voilà.
Voilà.
Ouais, est-ce qu'il y a une fée des chiottes ?
Non, mais alors c'est pire que ça, c'est que tu vas pouvoir récupérer les matières...
Non, pas le caca.
Les matières fécondes qui sont produites par le chiotte pour les mélanger avec de l'herbe qui vont te servir à faire de l'engrais pour améliorer des choses sur tes champs. Si tu fais un chiotte, un seul chiotte, et que ta population est grande, bah, ils font la queue et tu les vois qui sont en train de... paniquer devant la porte en attendant que ce soit leur tour, quoi.
Disons-le, hein, c'est tout.
Oh, putain, le jeu de méduse, quoi. Ouais.
Non, mais c'est drôle, c'est mignon, ça détend, ça se joue sans aucun problème, et si vous aimez construire des trucs, péter des trucs pour en construire d'autres, si vous aimez les Lego, c'est parfait.
Donc c'est City Skylines, mais en beaucoup plus Dragon Quest.
Voilà. Non, puis vraiment, voilà, c'est peut-être moins poussé que ça, mais... Ah, mine de rien, il y a moyen d'en construire des trucs. Et puis, ouais.
Bon, ok. Non, mais ça a l'air plus intéressant que ce que... Du coup, j'ai presque envie d'essayer la démo.
Parce que je l'ai pas essayé, je pense qu'ils doivent te filer le tuto et le début de l'île de l'éveil. Mais du coup, s'ils font ça, t'as... C'est un peu limité par rapport à...
T'as un bon aperçu du jeu quand même. Enfin, t'as un bon aperçu des mécaniques quand même ou pas ?
Pour moi, les mécaniques, tu les découvres vraiment quand tu arrives sur la première île qui te permet d'apprendre l'agriculture.
Ah ouais.
Parce que c'est pas gentil, tu vas biner la terre pour planter des choses. Et ça, ça va le faire, mais ça va faire pousser que des choux. Si tu veux faire pousser des cannes à sucre, oui, je crois que c'est ça. Il faut que tu du le hashish. Creuses.
Ouais. Chanvre.
Il faut que tu le creuses, que tu le remplisses de flotte, et là, tu pourras planter tes cannes à sucre et ça va pousser.
Et après, si tu mets une lampe à UV au-dessus, ça peut faire pousser plein d'autres trucs. Non, mais après, tu peux faire ton propre orge et tu peux faire ta bière, et ça, c'est important.
Et ça, c'est très important, oui. N'est-ce pas ?
Moi, c'est le seul truc que j'ai retenu du jeu Pharaon, en fait, c'est que la bière, c'est bien. voilà, bon, Dragon Quest Builder 2, je pense que effectivement, mais c'est un peu dans la veine effectivement du City Builder ou des trucs comme ça, sauf que en plus t'as un scénario
et voilà qui te conduit, enfin qui te guide un peu,
qui sert à la fois de tuto et de scénario. Mais du coup, est-ce que t'as un mode libre complet?
Alors pour moi le mode libre
c'est l'île bac à sable.
C'est l'île bac à sable sur laquelle tu reviens régulièrement.
D'accord.
Alors a priori, il y a moyen de le faire ramer le jeu là-dessus aussi. Au bout d'un moment, à force de foutre des blocs de partout, t'arrives à foutre du bordel, quoi.
Oui, parce qu'il n'y a pas de limitation véritablement.
Non, il
n'y
a aucune.
De nombre de blocs affichés ou de je sais pas quoi, c'est vraiment. Le truc est 100% libre, quoi.
Il n'y a aucune limite.
No limit. Mon dieu, c'est Walou. Extrême limite. Excusez-moi. J'ai eu un Roland de télé française.
Excusez-moi, j'ai vomi.
Non, c'est pas propre. Et bien le dernier jeu dont on va parler ce soir, attention, c'est l'instant Gotopouf.
Alors celui-là tu me l'as vendu par contre.
Ah celui-là, je t'ai vendu du rêve. Hein. C'est Bloodstained Ritual of the Night, donc c'est pas la version 8-bit D-Make qui était Curse of the Moon, qui est en fait, c'est pas un remake, c'est pas une suite, mais enfin c'est une suite spirituelle de Castlevania 3. Et c'est complètement assumé et jusqu'au bout. Enfin, le truc est. C'est Castlevania 3+, quoi. Il n'y a vraiment pas de possibilité de faire autrement. C'est assez ouf d'ailleurs. La version physique débarque chez Limited Run dans pas si longtemps que ça. Je crois qu'elle a été expédiée il n'y a pas longtemps.
Et je l'ai déjà.
Et tu l'as déjà. Et ben, c'est cool. Ben, moi, je l'aurai dans quelques jours, je pense.
Dépend avec quoi tu l'as pas.
Je l'ai bazardé avec Bomb Chicken et Iconoclast, je crois.
Ouais, donc, j'ai reçu tout ça.
Et ben voilà, ben je vais probablement recevoir tout ça dans pas sous peu. Bref, donc Bloodstained Curse of the Moon, qui est donc la version 8-bit D-Make, qui est fait par Inti Create, les gens qui avaient fait Mighty No. 9. Bordel de merde.
Ouais.
Donc, nous vient eh bien Ritual of the Night, qui est le vrai jeu kickstarté par monsieur Castlevania Symphony of the Night.
Il y a Arashi, je crois, de mémoire.
Igarashi, tout à fait.
Dans la colle.
Hein, dit Igarashi est dans la colle, très bien. Et effectivement, c'est ça. Alors, j'ai écrit une petite critique sur le dojo que je vous invite à lire si vous avez envie de voir un petit peu plus de détails. Je pensais pas trop parler de ça parce que j'ai déjà donné plein de trucs un peu à la con. Je vais juste vous raconter 2-3 anecdotes sur le jeu qui m'ont relativement amusé. Alors déjà, le degré de finition du jeu est assez lamentable. Tu passes ton temps à crier où sont les millions parce que c'est vrai que les textes sont quasiment illisibles. Merci beaucoup d'avoir mis le lien dans le chat d'ailleurs.
Je t'en prie.
Les textes sont quasiment illisibles parce qu'en fait, dès que t'as une apostrophe est un espace de genre 15 caractères avant le mot. Les trois petits points, je sais pas pourquoi, dans la police de caractères qu'ils ont choisi, dès qu'ils mettent trois petits points, et toutes les phrases ont trois petits points parce que forcément, c'est. Tous les personnages sont mystérieux et ténébreux, donc tu vois, ils parlent avec des trois petits points. Les trois petits points sont surélevés, en fait, par rapport au texte.
Ah.
Donc ça rend le truc... Enfin, voilà. Il y a plein de trucs à la con comme ça. Les cinématiques sont totalement au schnapps. Dans le test, je disais que c'était digne de la N64, mais il y en a certaines qui sont même pires que ça, je pense. Notamment la cinématique d'intro du boss final, c'est quand même à se chier dessus de rire. Voilà, donc... C'est incroyable. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, en fait. Le truc, c'est ça. Parce que les dialogues hyper cheesy, les trucs qui n'ont pas de sens, les personnages que, oui, c'était un traître depuis le début.
Hey.
Mais tu le vois venir à 2 km. Le personnage, il est blond, il a les cheveux longs. Oui, c'est un traître.
Voilà. Il y a 4 points quand il parle.
Il y a 4 points au lieu de 3 points. Voilà, il est grand, il est blond, il est ténébreux. C'est un traître. voilà, donc
Bien résumé.
Passer ça, le jeu en anglais après 10 minutes, ouais, c'est même en anglais, il est assez lisible. Hein. Donc voilà, j'avais envie d'aimer ce jeu, parce que la carte est très cool, parce que les pouvoirs sont cool, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées dedans, même si les systèmes de jeu sont vraiment beaucoup trop foutraques, t'as trop de trucs, c'est vraiment trop le bordel. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu à la toute fin du jeu qu'en fait, tu pouvais cuisiner des trucs. Et je savais pas, moi, au début, qu'on pouvait cuisiner des trucs. Et en fait, comment tu fais pour cuisiner des trucs ? Ben, faut trouver les recettes. Et les recettes, elles se trouvent dans les coffres, et les coffres, ils sont cachés. Et moi, je chopais un truc dans un coffre, il y avait écrit « ça va être délicieux » ou une connerie comme ça. J'étais là genre « mais qu'est-ce qu'on est à branler ? File-moi des cœurs, quoi, arrête de me casser les couilles avec tes trucs. » En fait, donc, tu peux faire la cuisine, et la cuisine permet d'avoir des augmentations de stats permanentes, mais seulement la première fois que tu manges le plat.
Ah.
Quand tu le remanges après, ça fait plus. Oh putain. Voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Et en fait, c'est presque le plus gros reproche que j'ai à faire au jeu, ce qui veut dire que tout le reste est quand même pas si mal que ça, mais c'est qu'il y a beaucoup trop de systèmes foutraques qui sont balancés en vrac, et il y a des trucs, tu comprends rien, quoi. Enfin, il faut... Alors je comprends, c'est le côté un peu expérimental et bac à sable du jeu, et c'est cool, mais il y a des trucs, ça mériterait quand même d'être expliqué. Tu peux upgrader tes cristaux, par exemple. Donc les cristaux, c'est les pouvoirs, c'est l'équivalent des âmes dans Aria of Sorrow. Mm-hmm. Quand t'abats un ennemi, tu peux récupérer son cristal. Alors déjà, les cristaux, il y a 8 catégories différentes. Donc t'as les upgrades permanentes, t'as les trucs passifs, t'as les machins qui se déclenchent avec R, les machins qui se déclenchent avec le stick droit, les machins qui se déclenchent avec le bouton X, les machins qui se déclenchent avec le bouton Y, les machins qui se déclenchent avec le bouton A. Donc déjà, ça fait beaucoup de trucs. Ok, soit. Ça donne plein de possibilités, et il y en a dans le lot qui sont intéressantes. Par exemple, les pouvoirs directionnels, c'est vachement intéressant, en fait, parce que ça exploite le stick droit qui n'avait jamais été exploité dans un Castlevania avant, où tu peux vraiment diriger un pouvoir, et du coup, tu peux vraiment faire des trucs complètement pétés avec, c'est hyper cool. Le problème, c'est qu'en fait, il y a 3, 4, 5 pouvoirs qui s'utilisent avec le stick droit qui sont intéressants. Et du coup, bah, tu peux pas tous les utiliser en même temps, tu peux pas tous les équiper en même temps.
Ouais.
Et du coup, c'est le bordel. Et il y a des moments dans le jeu où en fait tu passes ton temps à alterner entre plusieurs configurations parce qu'il y a un moment où t'as besoin de tel pouvoir pour ouvrir telle porte, puis t'as besoin de tel pouvoir pour aller cracher de l'eau, puis tel pouvoir pour aller cracher du feu. C'est le bordel.
T'as pas possibilité de faire des patterns
Alors t'as la possibilité, quand t'as un cristal qui te sert de raccourci, en fait tu peux en ramasser 4, 5, 6, 7 ou 8. Mm-hmm. C'est des cristaux de raccourci qui en fait te permettent de faire des trucs prédéfinis. Le problème c'est qu'en fait c'est tout qui est prédéfini. C'est-à-dire c'est à la fois ton équipement et tes cristaux.
D'accord.
Donc quand tu as changé d'équipement à un moment parce que t'as chopé un meilleur chapeau, une meilleure écharpe, des meilleures bottes, tous les raccourcis que t'as fait sont plus valables, il faut se les retaper tous.
Ok.
Donc tu peux les copier d'un emplacement à un autre, mais ça reste hyper, hyper maladroit. Voilà, tu sens que les mecs veulent faire bien, tu vois, ils te proposent de faire des raccourcis pour que tu puisses sélectionner rapidement ton truc pour faire des gros dégâts, ton truc pour avoir beaucoup de défense, ton truc pour explorer, et ainsi de suite. Et c'est bien, tu finis par avoir des patterns comme ça. Cool, mais au bout d'un moment, ça devient chiant à gérer, quoi. C'est limite, il y en a trop pour son propre bien, en fait.
Mmh. Et niveau durée de vie, ça donne quoi ?
Alors, j'ai passé 25 et quelques heures pour voir la fin du jeu. Bonne fin, je précise, parce qu'il y a une mauvaise fin que tu peux obtenir très rapidement.
La bonne et la mauvaise fin.
Voilà, et alors, ce qui est un peu casse-couille, d'ailleurs, et là, je suis un petit peu déçu là-dessus, c'est que c'est... Enfin, à un moment, tu rencontres un boss qui est assis sur un trône, qui a un verre de brandy dans les mains.
Et encore un chiotte, quoi.
Et qui te dit « What is a man? A miserable little pile of secrets. » Et c'est pas une blague, hein, il te dit quasiment un truc comme ça, enfin...
Mot pour mot, ce que dit Dracula au début de
Symphony of the Night, quoi. Pas mot pour mot, mais c'est le clin d'œil est hyper appuyé. Voilà, le fanservice est là, hein, clairement.
Hey, c'est moi qui ai fait ce jeu.
Voilà, et donc il balance son verre et tout ça, et donc tu le niques drôlement facilement d'ailleurs. Et le truc te dit tu l'as niqué, c'est la mauvaise fin. T'es là genre ok, très bien, mais comment on fait pour avoir la bonne fin, enfin comment on fait pour continuer, en fait? Et c'est expliqué nulle part dans le jeu.
T'as pas d'indice, ouais,
t'as okay. Aucun indice, ou alors je l'ai pas vu, je l'ai raté, c'est possible, mais enfin voilà, c'est quand même, il y a quand même des trucs un peu limites. Pareil, un des défauts, alors je le précisais dans l'analyse, mais je pense que c'est vraiment un truc assez prégnant dans le jeu, c'est que le niveau de difficulté est vraiment en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où tu te fais rosser le cul. Et puis, je sais pas, tu fais un aller-retour au village, tu vas aller upgrader un cristal de cristaux, tu vas aller récupérer une autre armure, un machin, et tout d'un coup, tu te mets à rouler sur le jeu. Voilà, pareil pour les boss, t'en as où... Enfin, la reine des Ragnania... Désolé, hein, il y a une vampire qui se baigne dans du sang, moi je l'appelle la reine des Ragnania, comment tu veux l'appeler autrement. Voilà, c'est dégueulasse déjà. Bon. Mais elle est ignoble. Ignoble, c'est-à-dire que... Enfin, en fait, j'ai réussi à la battre en bourrant les potions de soin, j'arrivais pas autrement, quoi, c'est vraiment horrible. Et le boss d'après, je lui ai roulé sur la gueule, mais... sans aucune pitié. Donc voilà, Bloodstained, en fait, c'est pas un échec par rapport à tous les jeux Kickstarter qui ont fait des millions. C'est pas Mighty Number 9. C'est pas l'autre jeu de merde, j'ai plus son nom.
Tout jeu de merde.
Non, mais il y a eu quelques ruines quand même.
Broken Age, ouais, Broken Age. C'était pas ouf.
C'était
mais...
pas ouf. C'était pas un raté, mais c'était pas. Elisabeth Bathory, reine de la Radéragnania, oui, effectivement. C'est pas ouf. Voilà, c'est pas Mighty No. 9. La carte est quand même hyper bien foutue. Moi, c'est ce qui m'a accroché jusqu'au bout du jeu. Hein. Vraiment, c'est... le côté Metroidvania, il marche à 100%. Mm-hmm. Le système de combat marche très, 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 très bien. Je l'ai à peine effleuré dans l'analyse, donc ça vaut le coup de le dire là. Le fait de dire, je peux frapper, j'ai des backdash, je peux envoyer des pouvoirs, machin, ça marche super bien. Certains pouvoirs marchent très très bien. Je referai une petite parenthèse sur les pouvoirs juste après. La carte marche bien, donc voilà, il y a tous ces trucs là marchent bien.
Ce qui fait que l'essentiel.
Voilà, le cœur du jeu, le core design du truc marche très bien, pas de problème. C'est le reste en fait qui est un peu merdique, c'est-à-dire le design Gotopouf, qui est quand même un peu dur à avaler par moment. Les problèmes de finition, on l'a dit, mais c'est quand même.
Après, je sais qu'ils ont prévu de maintenir un peu le truc en le patchant régulièrement.
Ouais, mais ça change pas grand-chose. Enfin, la cinématique où il y a Zangetsu qui lance son grappin et qui t'amène, et on dirait une cinématique N64, je suis désolé.
Après, ça peut me faire marrer, parce que ça se joue quand même, c'est en 2,5D.
C'est en 2,5D, mais du coup, les cinématiques en 3D passent pas. À la limite, je me dis, ouais. C'est con, ils auraient fait des cinématiques en mode, on prend un petit studio et on fait un petit bout d'animé quand il y a une cinématique, ça aurait été vachement intéressant.
C'est vrai.
T'aurais repris le studio qui avait fait Castlevania, la série animée sur Netflix, qui marche plutôt bien. Le niveau d'animation est pas fou, mais ils auraient fait, 5-10 minutes de séquence animée là. Ça aurait pas bouffé tout le budget, hein, gars. Il en restait encore sous le pied, je pense. Et franchement, ce serait mieux passé. Et pareil, entre les t'as des trucs assez pétés comme ça. Entre les personnages que tu vois en gros plan dans les cinématiques... Et les cinématiques 3D, en fait, c'est pas les mêmes modèles. Les modèles sont plus détaillés dans les trucs 2D. Enfin, ça fait hyper tâche, quoi.
Ok.
C'est...
Ouais.
Tu vois le truc ?
Oui, je vois l'idée.
Bon, voilà. Et... C'est un peu dommage. Voilà, il y a des trucs un peu dommage. Par contre, voilà.
Et les pouvoirs, du coup ?
Le cœur du jeu sont cool. Et les pouvoirs, je vais terminer là-dessus. Alors, au bout d'un moment, tu finis par tilter des trucs, donc les cristaux ont des couleurs. Alors, c'est dommage pour les daltoniens, d'ailleurs, parce que ça va être compliqué. Et donc, t'as plusieurs catégories. Donc, t'as les passifs, ceux qui se jouent avec le stick droit, avec X, avec Y, et ainsi de suite. Et en fait, je crois que c'est les rouges qui se jouent avec Y. Ou A, je me souviens plus. Enfin bref, c'est pas très grave. Non, puisque Y, c'est ton épée, donc ça doit se balancer avec A, et au bout d'un moment, tu élimines une chauve-souris, tu ramasses un cristal rouge, et tu peux être à peu près certain que le pouvoir, c'est lancer des chauves-souris. Et donc, la première fois, tu dis, ok, donc le pouvoir, c'est lancer des chauves-souris. Tu tues une grenouille, c'est un cristal rouge, tu te dis, et le pouvoir, c'est lancer une grenouille. Tu te dis, what ? Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, tous les pouvoirs rouges, ça correspond à lancer l'ennemi qui est mort pour te le donner. Donc les mecs peuvent se vanter d'avoir 8000 pouvoirs, effectivement, s'il y a 8000 ennemis, ils ont 8000 pouvoirs. Voilà.
Ok.
C'est quand même un vrai truc à la con. Je pense que ça fait un peu partie du problème de finition, c'est-à-dire quand les mecs se vantent d'avoir 250 pouvoirs, mais en fait non, ils ont 80 pouvoirs, et après il y a lancer l'ennemi qui t'a donné le pouvoir.
Oui, mais ça fait du chiffre, c'est cool.
C'est un peu con. Alors t'avais le même défaut dans Area of Sorrow, hein. T'as beaucoup d'ennemis de base qui te donnaient juste... t'as éliminé un rat, c'est lancer un rat, quoi. Bon. C'est vraiment faire du remplissage pour du remplissage, je trouve ça un peu dommage, surtout que dans certains cas, pour certains ennemis, il aurait pu y avoir des pouvoirs plus intéressants, parce que là, il y en a les trois quarts en plus. Je veux dire, le lancer de chauve-souris, c'est même pas les chauves-souris, elles volent à une certaine hauteur, hein. Elles volent en bas, exactement comme le rat, la grenouille, le... c'est vraiment... C'est même pas l'ennemi à un pattern potentiellement un peu intéressant, parce que il va sauter, il va rebondir trois fois ou je sais pas quoi, non. Non, c'est le truc le plus bête du monde, quoi. Donc c'est un peu con. Voilà, donc Bloodstained, c'est... si vous êtes nostalgique de Symphony of the Night, vous y trouvez à votre compte. Si vous aimez bien les Metroidvania, je pense que vous y trouvez à votre compte. Malheureusement, je pense qu'il y en a de meilleurs qui sont sortis depuis. Je pense à Hollow Knight, par exemple.
Au hasard.
Au hasard, un peu. Mais même, enfin voilà, il y a de meilleurs jeux qui sont sortis depuis. Après, le fanservice Castlevania est là. Donc, ça peut passer.
Voilà. Et les Zik ?
Les Zik sont très, 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 très cool.
Nice.
Ça, la musique orchestrale, machin, je l'avais dit dans l'analyse aussi, mais honnêtement, ça pète bien.
Et c'est, même,
la, c'est la compositrice des Castlevania.
Voilà, c'est ce qui semble. Hein.
Voilà. Alors après, ça manque un tout petit peu de guitare électrique à mon goût. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'orchestrations classiques qui sont très bien. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Des fois, un petit peu plus de synthé, un peu plus de guitare électrique, ça aurait été sympa. Ça aurait modernisé un petit peu le truc. Là, la meuf, on lui a dit « Tu fais du Castlevania », elle a fait du Castlevania. Mm. Donc ça passe, hein, c'est cool. En plus, toujours pareil, dans cette optique-là, c'est pour ça que je dis « La carte est vraiment, vraiment... » Ça sauve le jeu pour moi. La carte, elle est vraiment, vraiment très bien. Toutes les zones ont vraiment une personnalité propre, que ce soit visuelle ou sonore. Et dans ce genre de jeu-là, c'est vraiment indispensable d'avoir un truc qui te fait voyager comme ça. C'est cool. Alors, ça rend la carte complètement incohérente. Au sens où t'as un désert qui est sous une zone de flotte, qui est sous un souterrain, qui est sur un laboratoire médiéval, qui est...
c'est n'importe quoi. En quoi ça change de d'habitude,
hein. Et tout ça dans un château.
Tout ça dans un château. Non mais ça change rien par rapport à d'habitude. T'as même la zone des grands petits, un peu à la Mario 64. Bref, donc t'as vraiment des trucs hyper bizarres, mais voilà, ça marche. Donc tu vas pas... De ce point de vue-là, on peut pas dire grand-chose. Voilà, c'était Bloodstained, je suis désolé, j'ai été un petit peu long.
C'est pas grave.
Mais voilà, donc...
Je vous encourage moins à attendre pour le direct de tout à l'heure.
C'est ça. Je vous encourage à lire le test si vous le voulez. Moi, j'ai fini le jeu quasi en intégralité sur Twitch cet été. J'avais pas grand monde pour me regarder, mais c'était rigolo de le faire en direct. Et ça vous occupera une bonne vingtaine d'heures. Si vous voulez essayer de poncer le jeu et vraiment d'essayer de récupérer... De faire le 100%, t'as tous les pouvoirs, toute la map, tous les boss secrets, il y en a un paquet de boss secrets en plus, donc c'est vraiment cool là-dessus. Ça vous prendra, à mon avis, une bonne cinquantaine d'heures.
Ok.
Et pour l'instant, dans les jeux Kickstarter à millions, c'est probablement le meilleur.
Voilà. C'est un Kickstarter, Hollow Knight.
Ah merde. Bon, ben, c'est le deuxième meilleur.
Cheval Knight aussi, c'est un Kickstarter.
Oui, mais il a pas fait des millions.
Ah, c'est possible. Alors, remarque, honnête, je sais pas s'il a fait des millions. Hein.
C'est pas un Kickstarter à millions comme Mighty No. 9.
Oh putain.
Un jour, je referai une run de Mighty No. 9.
Oula. J'essaierai de finir le premier niveau et puis après, tu iras jouer à un jeu.
C'est ça, ouais. Apparemment, il y a une section jeu de merde sur le Summer Game Dot Quick, le dernier, qui était assez épique.
Hein, il y en a toujours des sessions de jeu de merde, quand même, là-dessus. Hein.
Ouais, mais là, il y a une session totalement faux-folle et je crois qu'il y a un bout de Mighty No. 9 dedans.
Il y a quand même des gens qui sont pigés le jeu. Hein.
J'arrive pas à comprendre. C'est vraiment de la merde.
Ouais.
Megaman 11 est déjà compliqué à aimer, je trouve. Donc, un peu moins de 60K Holonian, c'est bah dis donc, voilà.
Donc, ouais, ça, apparemment, ils avaient déjà les finances. Hein,
c'est pas un jeu à millions. Donc, ils ont fait la préco sur Kickstarter.
Ouais, c'est pas un jeu à millions, mais il a des millions dans mon cœur.
Tout à fait. Bon, voilà, donc Bloodstained. Ça passe. Voilà, vous pouvez y jouer. Franchement, ça passe bien. Si vous arrivez à passer outre le design, si vous arrivez à passer outre les problèmes de finition, et que vous aimez bien action, exploration, plateforme, cette partie-là marche très bien.
J'ai surtout l'impression c'est cool. Que c'est un jeu qui va plaire beaucoup aux gens qui aiment les Metroidvania, mais surtout les Metroidvania avec marqué Castlevania et l'ambiance dessus. Mmh.
Mais c'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment, si Konami aurait décidé de reprendre le projet, il l'aurait appelé Castlevania 8, ou Castlevania Ritual of the Night, t'avais le même jeu. Hein. T'avais le même jeu, vraiment. ça reprend les systèmes de glyphes de Order of Ecclesia, mélangés.
L'héroïne ressemble beaucoup à l'héroïne de Order of Ecclesia aussi. Hein.
En plus, ouais. Non, mais d'un point de vue design, ça ressemble à ça. Hein. Donc clairement, c'est Castlevania pour les gens qui voulaient du Castlevania. Après, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Est-ce que la pression du Kickstarter a fait qu'ils ont essayé de packer le plus de trucs possible dans le jeu plutôt que d'essayer de faire un truc simple qui marche? J'en sais rien.
Ouais, c'est un jeu qui devait sortir en 2018 à la base. Hein.
Oui, en plus, ils ont accumulé des retards et tout ça.
Comme tous les Kickstarter.
Ben, pas tous, mais presque. Non, Shovel Knight, il n'y a pas eu de retard.
Ouais, c'est la dernière extension qui a pris du retard. Hein, mais...
Ouais, c'est vrai.
Décembre. Enfin.
Ouais, avec les Amiibo.
Ouais. Yeah. Enfin bref, voilà. Donc Bloodstained, Mecton, si t'as envie de l'essayer...
Ouais, mais je l'ai acheté.
Et après, tu t'es fait prendre par Fire Emblem.
Ouais, alors, exactement. La question, c'est est-ce que la version Switch est si injouable que ce que j'ai entendu?
Non, c'est une...
Non, alors, voilà, a priori, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on a bien voulu laisser croire, et ça a plus ou moins été commencé à être corrigé depuis.
D'accord. Alors, moi, ce que j'ai vu moi là-dessus, c'est que la version 1.0, donc vraiment la version vanille du jeu, avait d'énormes problèmes de toute façon sur toutes les plateformes. La version 1.0.1 a corrigé un certain nombre de problèmes. À partir de la version 1.0.2, le jeu il est jouable. Moi, en version 1.0.1, il m'a planté deux fois quand je lisais les bibliothèques, en fait. C'est-à-dire que t'as les bibliothèques qui sont régulièrement dans le jeu, qui te permettent d'apprendre en fait des mouvements secrets avec des armes. Non, pas le lore. Alors, t'as un bout de lore, mais en fait, le lore, t'en as un peu rien à branler. Enfin, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Si ça se trouve, j'ai raté les indices de la bonne fin parce que j'ai pas lu le lore, mais j'en ai rien à foutre.
Le savais-tu, d'ailleurs, dans Symphony of the Night, il fallait mettre des lunettes au héros pour pouvoir obtenir la vraie fin.
Enfin, voilà, c'est des trucs comme ça, mais je vois pas comment tu peux trouver ça tout seul, en fait. Et ouais, ça, je trouve ça dommage parce que... Enfin, c'est con. Moi, au final, j'étais regardé sur GameFAQs où les mecs disaient « Ah bah ouais, mais en fait, tu fais ça, et voilà. » J'étais là, genre « Mais putain, mais comment tu veux que je le sache, quoi ? Où est-ce que tu trouves ça ?» Alors, tu peut-être que tu peux t'en douter, peut-être qu'à force d'essayer, tu finis par tomber dessus. Enfin, putain... 10 millions sur Kickstarter, quoi. Payez-vous un mec pour donner un PNJ qui donne un pauvre indice à un endroit, quoi.
Ou alors tu balances le truc dans le menu une fois qu'il a fini la mauvaise fin.
Mais pourquoi pas? Mais moi, si à la mauvaise fin, la meuf... Enfin, la... Alors, je vais pas spoiler, hein, attention, mais... elle est blonde. Elle a les cheveux longs, hein, donc vous savez tout ce qui va arriver. Si elle m'avait dit genre ah, tu as la mauvaise fin, si tu as la vraie fin, fais ça, ou alors je sais pas, tu aurais mieux fait d'écouter machin, peut-être que ça m'aurait donné un indice pour dire tiens, peut-être que machin, faudrait que j'aille le voir.
Oui, voilà.
Mais là, non, rien.
C'est un peu forcé, mais bon, au moins ça évite que les gens loupent la bonne partie du jeu.
Ouais, voilà, surtout que quand t'as la mauvaise fin, ça t'indique pas en plus que c'est la mauvaise fin.
Ouais, non, c'est
ça, en plus,
chiant.
T'aurais pu finir le jeu genre en mode pétard mouillé, quoi.
C'est un peu ça, ça aurait pu te dire, bah, le jeu il est fini. Ah ok, donc j'ai pas ouvert telle zone, c'est peut-être juste des zones secrètes, et pff, voilà, non, c'est...
peut-être juste un DLC.
C'est peut-être juste un DLC. Non, parce qu'à un moment, t'as quand même la fontaine de Ragnagna où tu te doutes qu'il y a un truc.
Et là, il y a des tampax.
Je vais me faire engueuler par ma femme dès qu'elle écoutera l'émission, ça va être génial. Bref.
On le reverra pas la semaine prochaine.
Voilà, en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Fire Emblem Three Houses. Ça y est, c'est bon, on peut le dire.
Ouais,
je crois qu'il est bien.
LDR est tombé. Je crois qu'il est très très bien.
Je peux déjà vous donner le conducteur, hein, donc on va faire le Nintendo Direct sur la première partie très 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 vite, parce que sinon on va passer 3 heures sur les.
On va faire comme Mortal avec les dialogues de soutien dans Fire Emblem.
C'est ça, on va appuyer sur A, ou sur plus. J'ai découvert qu'on pouvait appuyer sur plus pour zapper complètement le dialogue. Voilà, donc on parlera de Fire Emblem, du système de jeu, des nouveautés, de tout ce qu'on peut faire avec, de c'est cool, de bande d'enculés. Vous auriez pu le dire qu'avec les arbres rouillés on pouvait faire des trucs.
Ah bah, c'était marqué.
Non,
ouais, non, j'ai eu un des meilleurs arbres du jeu avec ça.
Putain de merde.
Il me semble qu'il y a un pélo qui te le dit.
Moi je me suis fait barder.
En fait, surtout si tu regardes la description de l'arbre, il te le dit.
C'est vrai,
peut-être ça peut être forgé en telle arme. Ah ouais, d'accord.
Tu te fous de ma gueule. Bon, non, c'est bref. Vrai.
Et là, j'ai vu les noms des armes ultimes dans l'épisode avec Marge. J'ai fait, ah, elle va être bien celle-là.
Putain de merde, je me suis fait baiser.
Bon, l'écriture, bref, le scénar, tout ça, c'est...
On parlera de l'écriture, on parlera du scénar, on parlera de l'implication du joueur qui...
On parlera de comment obtenir des enfants dans le jeu, car oui, c'est possible, c'est mon oncle qui me l'a dit, il travaille à Nintendo.
voilà, non, mais on parlera de tout ça, et surtout, pour une fois, j'ai suivi le scénario parce qu'il m'a captivé.
Ah, il était génial.
Et donc je voudrais quand même qu'on en parle parce que c'est quand même assez génial.
C'est juste événementiel.
Et on spoilera comme des porcs toutes les routes.
Et on spoilera comme des porcs dès la fin de l'émission toutes les routes. Voilà. Bref, on se retrouve la semaine prochaine exceptionnellement. Donc ne ratez pas, c'est pas dans deux semaines, c'est la semaine prochaine. Le podcast, c'est samedi ou dimanche en fonction de si j'ai le temps parce que je fais plein d'autres bordels à côté.
Ouais, en gros, ce sera la semaine prochaine.
Potentiellement, oui. On vous fait des gros bisous en tout cas. Et à la semaine prochaine.
A plus.
Ciao tout le monde.
Bye.
Bisous.
Ah, je me suis loupé.
Mais...
Non, c'est bon.